Vous avez survécu à la galette, aux crêpes. Le chemin vers les rondeurs n'est pas terminé puisqu'il y a mardi gras. C'est donc en voyant votre balance que vous vous êtes dit « c'était mieux avant ». Ce soir, assumons l'avenir et regardons le passé. Voici CMA. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que l'après nous réserve de meilleures surprises? Eh bien on voit ça ce soir avec nos chroniqueurs. Voici le sommaire. Lui, il aime, ce qu'il aime c'est le cinéma, mais il aime aussi la pipe. Et d'ailleurs, on en parle ce soir. Bonsoir Olivier, quel est ton sujet?
Alors, je vais vous parler d'un commissaire, le commissaire Maigret.
Je vois qu'au niveau des filles, elles se demandaient ce que c'était. Oui, on parle de Maigret.
Oui.
Voilà, c'est ça. Depuis, on ne t'entend pas d'ici. Depuis 2 ans, elle en porte un, comme nous, mais il en est de plus artistique que le FFP2. Hein. Bonsoir Sandra, de quoi nous parles-tu?
Je vais vous parler de basque, et essentiellement du basque vénitien.
Oh, Venise. Il n'est pas champion du monde de plongeon, mais comme Tom Daley, il aime peloter et jouer avec des aiguilles pendant des heures. Bonsoir Mathias.
Bonsoir.
Tu nous tricotes quoi ce soir?
Alors ce soir, je vous parlerai de l'origine du tricot.
Ah oui, bien. On aura aussi bien sûr le Graal hein, qui répondra à vos questions. Et puis ce sera donc une première partie bien éclectique. Mais c'est sans compter la suite, puisque dans la deuxième partie de l'émission, bien, nous parlerons de réussite scolaire, d'orange et de papier collant. Alors restez bien avec nous, voici la première partie de CMA. Les Anglais ont James Bond. Nous, on a autre chose. Un rythme à la française, on va dire. Lui, il a su s'adapter à ce rythme, en particulier pour préparer ses chroniques. Ce soir, il revient sur une des plus célèbres adaptations littéraires françaises. Voici la chronique d'Olivier. C'était la version avec Jean Richard.
Oui, oui, je vais en parler. Alors demain, le 23 février, eh bien sort Maigret, un film franco-belge réalisé par Patrice Lecomte, avec dans le rôle principal un certain Gérard Depardieu. Alors, c'est inspiré d'un roman « Maigret et la jeune morte » de Georges Simenon. Alors, à l'origine, le commissaire Maigret, c'est un personnage de fiction, héros de 75 romans policiers et de 28 nouvelles, donc du fameux Georges Simenon, qui a été publié entre 1931 et 1972. Alors, Georges Simenon, c'est un auteur belge qui a vécu à Paris par la suite, dans les années 30 jusqu'aux années 70. Georges Simenon, c'est le troisième auteur de langue française qui a fait l'objet de plus de tirages de ses livres. Il a eu les livres tirés à plus de 550 millions d'exemplaires.
Ouais, quand même.
Faut savoir que c'est le troisième après Jules Verne et Alexandre Dumas.
Donc c'est le Agatha Christie français
en homme. Alors, est-ce que vous connaissez Maigret? Est-ce que vous connaissez le personnage? Est-ce que vous voyez à peu près comment son style?
Pas du tout.
Pas du tout.
Oh là, c'est vrai?
C'est vrai. C'est pas de sa génération, Mathias. Ouais. Hein. Plutôt un homme robuste, amateur de blanquettes de veau, aimant les femmes, aimant l'alcool, aimant bien boire du vin, et puis aussi sa fameuse pipe, fumeur de pipe. Et avant tout, il est commissaire donc au 36 quai des Orfèvres. Alors, Georges Simenon, à l'origine, il a eu des modèles. Il s'est inspiré surtout d'un commissaire français très connu au début du XXe siècle qui s'appelait Marcel Guillaume. Marcel Guillaume a été commissaire en 1913 et puis après commissaire divisionnaire au quai des Orfèvres en 1928. Alors, ce Marcel Guillaume, il était surnommé l'as de la PJ. Par la presse, la police judiciaire, parce qu'il a conduit au début du XXe siècle toutes les affaires criminelles de l'époque. C'est lui qui a combattu la bande à Bonneau, c'est lui qui a mis en prison Landru, et puis il a aussi gérer l'affaire Violette Rosière. Pour les amateurs, enfin, c'est
ceux qui connaissent
les grosses affaires de l'époque.
Mais là, je crois qu'on a perdu toute une génération.
Et au final, donc, il s'est inspiré de cet homme, et d'ailleurs, c'était même un ami à Georges Simenon. Marcel Guillaume.
Oh bah, tu es content d'avoir des bouquins sur lui. Hein.
Il a tiré beaucoup de renseignements de ses conversations avec lui pour ses romans, et notamment le fameux interrogatoire à la chansonnette. En fait, il participait aux interrogatoires, Georges Simenon. Marcel Guillaume lui faisait voir comment on interroge des malfrats. L'interrogatoire à la chansonnette, c'est un peu un mélange de courtoisie, de déstabilisation psychologique et aussi de psychologie, de rentre-dedans, quoi, en fait.
C'est, d'accord. Voilà, le gentil flic et le méchant.
Voilà, le gentil flic et le méchant, c'était. Et on retrouve ça d'ailleurs dans les livres de Maigret. Voilà pour l'influence. Alors, Maigret, ça a été adapté de nombreuses fois au cinéma. Il y a 12 films où il apparaît. Alors, dans les années 30, dans les années 40, voilà, les acteurs de nom, je peux vous les dire, mais bon, on ne les connaît pas. Mais c'est surtout en 1952 où le meilleur Maigret, c'était Michel Simon, un très très grand acteur. Et puis, il y a eu 3 films dans les années 50 avec feu Jean Gabin.
Aussi, ah oui, d'accord, ouais, il a fait. Ouais.
D'ailleurs, Michel Simon, ça a été considéré par Georges Simenon comme le meilleur Maigret. Et puis, il y a eu moult séries françaises, européennes, voire même asiatiques. Alors, pour les plus de 40 ans, même plus que ça, c'est le fameux Jean Richard. Il y a eu 88 épisodes des enquêtes du commissaire Maigret, donc de 1967 à 1990, ouais, avec Jean Richard.
Ça, c'est
Jean
Richard, marqué,
pour ceux qui ne connaissent pas, ça a rapport avec le cirque. C'était un comique et aussi c'était un fou amoureux du cirque. Il y a un cirque Jean Richard. Voilà, et c'est comme si, je sais pas moi, comme si Florence Foresti faisait une enquête de commissaire femme, quoi. Enfin, c'était, à l'époque, c'était ça, c'était avant tout un comique, quoi.
Donc, non, c'était pas très drôle.
Apparemment, si, il a commencé un petit peu par le cabaret, tout, et après...
Oui, d'accord, mais les épisodes qu'il a fait de Maigret n'étaient pas comiques.
Ah non, je dégueule pas. Mais,
d'accord.
À l'origine, c'est un comique.
Okay. Voilà. Mais alors, c'est très lent, hein.
C'est très très lent, c'est clair.
Apartez-moi de la bière et des sandwichs. Pour ceux qui connaissent. Hein.
Vous connaissez peut-être mieux. Alors d'ailleurs, les enquêtes du commissaire Maigret avec Jean Richard, ça a révélé de nombreux acteurs. Il y a Depardieu, Michel Blanc et même Karine Viard qui ont commencé dans une enquête du commissaire Maigret, voilà, dans les années 70. Quoi. C'était vraiment le début, voilà, du cinéma français pour ces personnes. Après, vous connaissez peut-être sur Antenne 2 puis France 2, dans les années 90, il y a surtout eu donc Maigret. 54 épisodes, donc avec Bono Kremer. Hein, c'est peut-être lui principalement que vous connaissez. T'es forcément tombé là-dessus quand t'étais enfant, Mathias. Non,
ouais, Bono Kremer.
Les polars, c'est pas son truc, apparemment.
Et il faut savoir que c'est, comme Maigret est aussi connu par le monde entier. Récemment, il y a eu une série anglaise de 4 épisodes en 2018 avec Mr. Bean, Rowan. Atkinson.
Ouais, il jouait Maigret.
Qui a joué le commissaire Maigret, effectivement.
Ok.
Et puis il y a même eu une série japonaise en 1978 où ça se passait à Tokyo et le commissaire s'appelait Maigret, M-E-G-U-R-E. Voilà, c'était le commissaire.
Maigret.
Le commissaire Maigret. Voilà, en fait, il y a eu vraiment beaucoup d'acteurs, beaucoup d'adaptations, séries, téléfilms, films. Voilà, c'est un personnage mythique de la littérature française et aussi de la télévision française. Alors, je vous invite à tous aller voir Maigret demain.
La victime non identifiée, le sexe féminin. On relève 5 plaies par arme blanche. Les coups ont été donnés de manière désordonnée à bout portant.
Qui est chargé de l'enquête ?
Maigret, brigade criminelle, 36 quai des Orfèvres. Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue. Mais elle a forcément laissé des traces, là, quelque part.
Comment vous faites pour qu'ils parlent, vos suspects ?
Rien. Je les écoute. Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité.
Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie ?
Ça m'aide un peu à comprendre, une fille comme toi.
Elle s'appelait Louise.
Pourquoi avez-vous dit « elle s'appelait » ?
J'ai entendu une auto s'arrêter.
Concentre-toi sur les chauffeurs de taxi, surtout ceux qui font la nuit.
C'est pour la fille morte que vous faites tout ça.
Il faut se protéger, ne pas être insensible.
Quand on perd son enfant, on perd tout. Il n'y a plus rien, vous savez.
Je sais, monsieur Kaplan. À la longue, c'est obligé, puis de forger une carapace. Puis un jour, au détour d'une affaire banale... T'es touché par un détail. Alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup.
Bon.
Avec Depardieu aussi, je pense que ça va donner bien. Ça, je pense que ça peut être ça.
Alors ça se passe dans les années, les années 50, 60, 70. Hein,
ouais.
C'est
en plus, c'est,
tout, voilà,
c'est encore mis dans l'époque.
Film, voilà, dans les années 50.
Très bien. Merci Olivier. Alors, que ce soit pour se cacher ou se protéger des autres et de leur virus, il n'est plus réservé qu'à Zorro. De fer ou de papier, il peut être un accessoire de fête. C'est ce qu'on va voir avec la chronique de Sandra.
Avant c'était à carnaval qu'on mettait des masques, qu'on mettait des masques. Où c'était pour aller au bal qu'on mettait des masques, qu'on mettait des masques.
Voilà, c'est gentil comme... hein, c'est, par rapport à la dernière fois, c'est plus gentil.
Oui, c'est... Oui. Bon, j'ai oublié mon masque juste avant de Venise.
Ah, ah, t'avais
un... J'en avais un et j'ai oublié, je me suis dit,
t'as juste un, juste un FFP2 de canard, voilà, c'est pas grave.
Et il allait très bien avec le FFP2
en plus.
Tant pis. Donc aujourd'hui, du coup, j'avais envie de vous parler de cette folie ambiante qui déambule dans nos rues, c'est-à-dire la mode des masques.
Oh, tu parles d'une mode.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est carnaval tous les jours depuis 2 ans. On aborde des masques FFP2 en forme de bec de canard, comme le mien, mais il y a pire encore. Des masques chirurgicaux, bleus, noirs, roses, verts, assortis à nos tenues. Des masques en tissu avec des motifs liberty, géométriques, des paysages, des sourires artificiels.
Ah, quelle horreur.
Et pourtant, les gens ne semblent pas être à la fête. C'est bizarre. Alors, pour vous faire rêver encore une fois, je vais vous parler de l'emblématique masque vénitien. Donc, on connaît tous le célèbre carnaval de Venise, où l'on peut parader avec de magnifiques masques vénitiens à plumes, à strass, représentant des personnages de la Commedia dell'arte, ou encore des caricatures de métiers, ou bien des masques d'animaux, en fait. Donc, en fait, il en existe une multitude, et d'ailleurs, je ne vais pas... C'est impossible de parler de tous les masques qui existent, avec des codes qui sont bien spécifiques. Donc je vais vous parler après. Donc le masque vénitien est apparu au Xe siècle, vers 1400. Et on utilisait les masques en fait dans la vie quotidienne pour aller faire ses courses, en fait, pour divers usages en fait, au quotidien.
Ah bon, mais pourquoi?
C'est-à-dire à l'époque, c'était pas lié au carnaval en fait, c'était vraiment au quotidien.
C'est un habit en fait. Ça faisait partie des habits.
Exactement. Et en fait, ça permettait de passer incognito, c'est-à-dire de ne pas dissimuler son identité, en fait.
Ah bon ?
Ça ne servait pas aussi pour ne pas avoir de maladie, peut-être ? Je ne sais pas. Peut-être pour ne pas non plus choper la peste ou des choses comme ça.
Oui, il y a ça pour le médecin, peut-être. Effectivement. Ah, il y a un masque comme ça. Mais non, c'était plutôt pour... c'était pour tout le monde, mais en fait, c'était plutôt pour éviter les... Quand il y avait des trafics douteux, des échanges avec des commerçants, ou des choses comme ça.
Bon,
voilà.
Donc on sortait avec des masques.
Voilà, c'est ça. Et c'était pour effacer également les barrières sociales. Et ça permettait d'être plus libre, en fait, dans ses actes et ses paroles. D'accord. En fait, d'oser plus de choses.
Donc que tu sois beau ou moche, en fait, avec le masque, tout le monde était à égalité.
Oui, parce que c'était pas un masque comme nous, c'était vraiment le masque, c'était tout le visage.
Voilà,
on
visage.
Voyait que les yeux, hein, c'est ça.
D'accord.
Et évidemment, en fait, après, l'usage de ce masque au quotidien faisait souvent dépasser les limites de la légalité, quoi. Donc, à un moment donné, le masque a disparu, forcément. Donc, à cette époque, d'abord, tout le monde, donc au Xe siècle, tout le monde pouvait porter un masque. Et par contre, il était seulement interdit dans les casinos, la nuit et dans les couvents. Alors je suppose que que la nuit, il y a peut-être les malfrats et tout.
J'imagine
ça.
J'imagine les bonnes sœurs avec des plumes.
Les casinos.
Ouais. Dans les couvents, je vois pas trop non plus.
Pas que sur le visage d'ailleurs.
Ouais. Oh, voilà. T'as bien fait.
Alors on portait le... Alors c'était le célèbre costume labota en fait qu'on portait.
Ah, le boutin.
La
boutin.
Bota. Non, le boutin. Qui était constitué d'un masque blanc qui s'appelle Volto avec une cape noire. Et un capuchon noir qui, c'était le haut des épaules.
Mais
en fait,
c'est Scream, là, que tu me décris, là.
Qui, là, s'appelle Bota, et un chapeau tricorne. Donc, Venise était une ville de mystère, de fantômes, on va dire. Les masques de chat, j'ai appris ça, étaient portés par des hommes dans les maisons closes.
D'accord.
Oui, c'était... Et
pas
au
de
théâtre, jeu
de mots, c'est bon, ok,
voilà.
On passe.
Et au théâtre, les masques étaient obligatoires pour les femmes mariées.
Ah oui.
Par la suite, le masque fut autorisé pendant 3 mois, en fait, durant le carnaval, qui débutait le 26 décembre et se terminait en mars vers la Carême, en fait. Donc ça a duré quand même trois mois.
Oui, beau carnaval.
Au début, si vous préférez, c'était tout le temps,
Mais après,
il y a eu 3 mois. Et ensuite, les masques vénitiens disparurent en 1797, pendant 200 ans. et ils refirent surface seulement en 1979, lors de la création du carnaval de Venise tel qu'on le connaît maintenant.
Tu veux dire que le carnaval de Venise, c'était encore en 79, c'est tout?
Ça a été, oui, ça, en 1979, le carnaval de Venise tel qu'on le connaît aujourd'hui est réapparu, mais sur une plus courte durée. Je crois qu'il dure une semaine, quelque chose comme ça.
Ouais. Bah c'est pas vieux, dites donc.
Effectivement, non,
c'est
les gens ressortent habillés avec les masques.
Ouais, voilà, ça, et là, la tradition revient.
Je croyais ça que c'était beaucoup plus ancien.
Et d'ailleurs, à Venise, il y a beaucoup encore de commerçants, d'artisans, dirais-je. Ça dépend de masques, quoi. Du coup, les plus anciens masques, en fait, proviennent de la Commedia dell'arte, comme Arlequin, qui est représenté avec un masque noir et un costume de losange coloré. Il y a Pantalone, un vieil avare qui était le seul à porter la culotte longue. Mmh. Et du coup, le mot pantalon vient de ce personnage. Il me semble que tu en avais parlé, du pantalon. Il y avait aussi Colombine, qui représente un demi-masque sur le haut du visage, plus communément appelé un loup, vous voyez. C'est ça que j'avais d'ailleurs, un loup. Et en fait, ce masque en fait, qu'on appelait un loup en France, ça représentait réellement un loup en fait, à l'époque de François Ier.
Ah, c'est les yeux d'un loup, les yeux.
C'était vraiment la physionomie d'un loup à l'époque de François Ier. En fait, on se déguisait avec vraiment.
D'accord.
Mais en fait, du coup, après, ça s'est. Transformé en juste les yeux. Voilà.
D'accord.
Et finalement, ça s'appelle un loup quand même, quoi. Pour la petite aparté, la Commedia dell'arte est une pièce de théâtre où les dialogues sont improvisés et ne sont pas écrits à l'avance, ce qui donne des scènes cocasses. Et la petite technique, si on n'avait pas de réplique, c'était de mimer en fait gestuellement. Parmi les masques célèbres, il y a aussi le masque della peste, réservé aux médecins.
Ah oui,
pendant
avec
la
le grand
peste.
Nez.
Voilà, c'est ça.
Et voilà, il mettait des herbes dedans pour ne respirer autre chose que... Parce qu'ils pensaient que la peste pouvait se transmettre par l'air, donc ils mettaient des herbes dedans, etc. Et puis ça permettait d'être loin du patient.
Oui,
également.
C'est ça. Ils pensaient que ça pouvait les protéger en fait de cette maladie.
On était déjà dans la distanciation. Hein.
Ah bah, oui, là,
on a du médecin nous aussi
avec des grands masques, oui.
Pour faire le mettre.
Avec des possible. Herbes et tout.
Donc finalement, j'allais dire éternelle question du masque qui protège ou ne protège pas. Et du coup, rendons hommage aux artisans mascareries qui fabriquent ces sublimes masques qui sont devenus la tradition de Venise. Les authentiques masques sont en papier mâché ou en cuir. Et je vous donne la recette du masque. Et oui, on prend un moule en plâtre, on tapisse la coque du papier mâché imbibé de colle, on laisse sécher, on démoule, on obtient un masque en papier mâché. Il crée les ouvertures, la bouche et les yeux. Ensuite, on badigeonne de peinture blanche, on y rajoute les couleurs, les plumes, le tissu. Et on met un vernis pour protéger le tout. Et nous voici avec un superbe masque. Voilà, ma chronique est terminée et je vous lance une invitation au bal masqué.
Ohé, ohé. On a des réflexes, nous. Très bien, merci Sandra. Allez, c'est l'heure de retrouver le Graal, la minute qui répond à vos interrogations. Ce soir, c'est un autre style de masque dont il est question, puisqu'on va parler du Ku Klux Klan.
Question de Jean-Marie, c'est quoi le Ku Klux Klan ?
En avant pour une étude de KKK. C'est la veille de Noël 1865, aux États-Unis, que deux personnes bien racistes décident de fonder une société plus que borderline, et donc secrète, pour tabasser les personnes à la peau noire, histoire de dire que c'est la race blanche qui domine. Le Ku Klux Klan aura près de 5 millions de membres. On les connaît pour leurs cérémonies spectaculaires, où ils sont tous anonymes, avec une cagoule et une robe blanche. Leur symbole est une croix blanche sur fond rouge. Il n'y aurait aujourd'hui plus que 8000 personnes dans ce clan, mais en ces temps de repli sur soi et de peur de l'autre, certaines de leurs idées ont leur chemin. Même si ce mouvement est illégal, l'ex-président Trump rechigne à le condamner. Il faut dire que Fred Trump, son père, fut membre du KKK. Les chiens ne font pas des chats.
C'était le Graal à retrouver sur Instagram, en vidéo sur Question Graal. Vous pouvez aussi nous y poser vos questions. Allez, on poursuit CMA, l'émission qui revient sur l'origine des choses, sur Radio G 101.5 FM et sur Spotify. Alors c'est en faisant une maille à l'endroit et une maille à l'envers qu'il a préparé ses chroniques. Et je peux vous dire que le faire en écoutant Mylène, c'est coton. Voici la chronique de Mathias.
Tout en rigotant, un bon gilet de laine.
jingle moderne.
Comment veux-tu que je rebondisse là-dessus?
Je ne sais pas.
C'est moderne.
C'est qui d'ailleurs?
Oh là, Yvette Schlocky. Alors Mathias.
Oui. Du coup, en automne...
Relève bien ton micro, s'il te plaît. Il faut bien en face. Voilà.
En automne et en hiver, c'est une saison où j'adore tricoter. Je passe plein de soirées à tricoter.
Ok, merci Mathias. On va passer à la rubrique suivante.
Puis je prends un petit thé en même temps. Non, c'était pas les... Mais du coup, je me suis demandé d'où ça vient. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît bien. Ouais. Et je voulais savoir, du coup, d'où ça venait. Et bien, c'est très compliqué de trouver.
Ah bon?
Et j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai trouvé son ancêtre, dans ce qu'on peut identifier comme son ancêtre, qui s'appelle le Nalbinding. Je sais pas si je le dis très bien.
Ah oui.
Florian, tu connais?
Florian, il dit oui.
Oui, Florian dit oui.
Tu t'as fait du Nalbinding quand t'étais petit?
Non, mais ça sonne bien comme nom.
Ah, d'accord.
Du coup, c'est ce qu'on pourrait identifier comme ancêtre du tricot et du crochet.
Ouais.
La technique diffère, mais le principe de créer des mailles pour former un tissu est assez similaire. J'ai regardé plusieurs vidéos pour comprendre comment ça fonctionnait. Il y en a qui pratiquent encore aujourd'hui cette technique. Autant être honnête, j'ai pas tout compris. en fait, au départ, ils font plein de nœuds autour du pouce et ça va dans un sens et dans un autre. Ils font des boucles, ils relèvent la boucle, ils l'enlèvent.
Donc, c'était avec de la laine déjà à l'époque?
C'était avec de la laine à l'époque. D'accord. Ouais. Et en fait, ils ont une aiguille en bois qui est toute simple, comme une grande aiguille, avec un trou pareil au bout. Et alors, une fois que ce nœud compliqué, sophistiqué est fait autour du pouce, il passe dedans avec l'aiguille et ça se fait tout seul. Ça fait une rangée un peu comme du crochet.
D'accord.
Mais ça fait un point qui ressemble au tricot. Enfin, c'est vraiment un
mélange. Bah, le tricot, c'est ça. C'est que des nœuds, en fait, les uns après les autres.
Mais au tricot, on fait plusieurs mailles et après, on enchaîne nos lignes. Alors que le crochet, on fait les mailles une par une sur l'aiguille. Du coup, là, ça ressemble un peu aux deux.
Et c'était des grandes aiguilles aussi, comme aujourd'hui? Parce qu'elles sont vachement grandes, les aiguilles.
Non, c'était des aiguilles de la taille d'un stylo.
C'était quand même très minutieux. Hein.
Ouais. Les plus vieux échantillons du Nalbinding retrouvés sont la paire de chaussettes sandales. Alors c'est assez particulier, hein, ça fait un peu orteil de chameau. Enfin, grosse chaussette qui vient d'Égypte et vient du 4e siècle. Et on a aussi retrouvé des bonnets et des châles de culture de la civilisation Paracas et Nazca au Pérou qui datent du moins 300 à 300 après Jésus-Christ.
D'accord. Donc c'est quand même des civilisations totalement séparées.
Oui, oui, oui.
Et ils ont inventé chacun quelque chose qui ressemble au tricot.
On voit que ça vient un peu partout, dans une époque vraiment lointaine, mais on n'arrive pas vraiment à définir d'où ça vient. Historiquement, les aiguilles, elles étaient faites dans du bois de serre ou de l'os. Sympa. Voilà. Alors historiquement, les aiguilles donc étaient faites dans du bois et en Scandinavie.
En Scandinavie.
Ouais, j'ai. Avant que le crochet et le tricot soient connus. Alors, l'arrivée du tricot, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, je connais l'ancêtre, mais le tricot dans tout ça. Eh bien, c'est très difficile de connaître le véritable arrivée du tricot. Il y a peu de traces de son histoire et de sa création. Sachant que ce n'est pas très résistant dans le temps, dans les siècles et tout, c'est quand même une matière qui, contrairement au tissu qui va être tissé, est plus fiable. Les pièces les plus anciennes retrouvées semblent dater du 3e ou 4e siècle. On a retrouvé plus rarement des aiguilles de tricot en os ou en bronze dans des tombes de la même époque.
Mmh. Tu dis les aiguilles, donc là, c'est les aiguilles d'aujourd'hui, enfin qu'on connaît, très longues.
Les aiguilles de tricot.
Qui font 30 cm et qui, d'accord.
Je trouve ça très rigolo d'ailleurs que les gens soient enterrés avec. D'ailleurs, si moi, un jour, je décède, je veux qu'on m'enterre avec toutes mes aiguilles de tricot.
Si tu t'ennuies, on sait jamais.
Non, mais c'est vrai, ça peut être important. Voilà. C'est bon à savoir. Du coup, il y a aussi des bas-reliefs égyptiens qui présentent des divinités portant des robes en tricot. D'accord. On voit bien le point de tricot dessus.
Mais Pénélope, là, dans Ulysse, elle tricotait ou faisait du tricotin ou c'était quoi?
Elle fricotait.
Mais non, mais on disait qu'elle faisait, elle tricotait en attendant son Ulysse revienne. C'était pas du tricot, ça.
Tu parles de qui? D'Ariane?
Ouais.
Les fils d'Ariane?
Non,
Ulysse. Non, c'est... Ah, Pénélope.
Oui, Pénélope, oui. Mm. C'est ça?
Pénélope, avec Ulysse.
Mais c'est ce que je viens de dire, oui.
Oui. Non, mais j'étais. Moi, je parlais d'Ariane, mais.
Ah non, le film d'Ariane, c'est autre chose. C'est
Pénélope, je sais pas.
Bon, excusez-moi, je dis Grèce, mais voilà. Parce que ça, du coup, ça remonterait au grec.
Au calendrier grec.
Oui, au moins.
Alors, du coup, globalement.
On t'a coupé.
Oui, non, mais
excuse-moi, on a digressé.
Eh bien, globalement, on suppose que la technique du tricot fut répandue dans le monde arabe. Ça m'a beaucoup surpris. Je m'attendais pas à... Enfin...
Bah, ils ont tout inventé, les chiffres et les machins.
C'est vrai, mais il fait chaud. Je me suis dit, quelle idée de...
Tu à faire de la laine. Ah oui, c'est vrai.
Ouais, ouais, enfin, voilà. Enfin,
je... Fait chaud, ça dépend.
Mais l'hiver dans le désert, il fait froid.
Oui, oui, c'est
ouais,
vrai.
C'est vrai. Ou les nuits, même les nuits.
La nuit dans le désert. Parce que l'hiver dans le désert. Non, la nuit dans le désert.
Ouais. Ils ont des montagnes aussi.
Donc, ça vient de là-bas.
D'accord.
Au plus tard, en courant du 10e siècle, peut-être avant... Le tricot a pu être introduit en Europe soit lors des invasions arabes du 8e siècle. Alors du coup, ça colle pas au 10e siècle. Ça part vraiment dans tous les sens. Ouais. Hein. C'est entre le 8e et le 10e. Soit lors des invasions arabes du 8e siècle, soit pendant la présence islamique en Espagne jusqu'au 15e siècle. Voilà, c'est un peu...
Mais du coup, ça doit être lié en fait à la mention de la, entre guillemets, de la laine, enfin du fil de laine.
Ben, j'ai pas trouvé de rapport. Justement, je m'attendais à avoir un lien.
Qu'est-ce qu'il faisait avec le fil de laine s'il ne savait pas tricoter ?
Il le mâchait.
Il le tissait. Ils avaient des métiers à tisser.
Ah,
en fait.
Oui.
Le tricot, d'accord. C'est une façon de tisser au final.
Ouais. Enfin, d'accord.
Puis il y a encore d'autres techniques hein, de tissage, effectivement, et de création.
D'accord. Enfin, donc le tissage était avant le tricot, alors, du coup.
Bah, je pense que je ne sais pas lequel est avant et après, mais c'est des façons de travailler les matières qui composent les tissus et les vêtements.
Tu tricotes quoi ?
Pénélope, elle fait semblant de tisser, ouais, mais c'était un tissé, alors c'était tissé, c'était pas tricoté.
Tissé, ouais.
C'était tissé, parce qu'on t'entend pas trop, mais c'est voilà. Dans le public, on nous dit que c'était tissé.
C'est quoi tes tricots ? Des écharpes, des bonnets, des pulls ? C'est quoi que tu fais ? Mathias ?
Mes tricots ? Oui, mais pourquoi dans l'historique de mon...
Ouais, je vois pas l'intérêt, mais... d'accord.
Non, mais c'est intéressant, on parle tricot.
Oui, voilà. Oui, mais enfin, bon, on va avancer quand même. Très bien.
Alors, au 19e siècle, les gravures de mode présentent dans les journaux des modèles en tricot avec explication et de confection. Donc, on a des modèles en tricot et on nous explique comment y parvenir. Donc, c'était le
de
début
maille,
de...
Ça, ouais.
C'est ça. Et au début du 20e siècle, le tricot est dans toutes les familles, par nécessité pour les plus modestes et par distraction pour les familles les plus aisées. Pendant la Première Guerre mondiale, toutes les femmes tricotent cache-nez, chaussettes, gants ou bonnets pour les soldats du front. Mmh. Alors... Petite réflexion dans tout ça, j'ai découvert en fait que les Vikings faisaient beaucoup de nalbinding, ouais, je sais pas comment.
Ouais, l'ancêtre, disons,
du tricot. Et j'ai regardé un reportage sur le tricot récemment qui se passait en Islande, où apparemment là-bas tout le monde tricote, c'est très très répandu, hein. On voit des gens tricoter dans la rue, partout.
Donc ça va faire.
Et...
Oui, c'est ça. C'est un peu vrai.
Non.
C'est un peu vrai, l'hiver est
Je trouvais ça cool, moi, que tout le monde tricote.
Oui.
Et dans leur histoire, ils ont eu les Vikings chez eux, qui les ont colonisés pendant longtemps.
Donc peut-être
sachant
que
eux... Enfin, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a un lien ?
C'est
est-ce
possible qu'il y a un lien. Très bien. Merci, en tout cas, pour toutes ces informations sur le tricot. Allez, on va parler maintenant de la chanson la plus reprise de tous les temps. Est-ce que vous avez une petite idée ? Quelle est la chanson la plus reprise de tous les temps ? Alors, Claude François, non.
La mer,
non.
Alors, c'est, ah oui, comme d'habitude.
Non, une chanson anglaise.
Oh, Sonia, nous en a pas parlé.
Anglaise, non. Une chanson anglaise, une chanson des Beatles.
Beatles,
ouais.
Alors, Yellow Submarine.
Non, pas Yellow Submarine, une autre.
Let It Be.
Non, pas Let It Be. Non, non. Hey Jude,
non, c'est
plus.
Les Beatles, Caroline.
Les Beatles.
Hey Jude, Hey Jude.
Bon, ça.
Yesterday.
Ah oui.
All my troubles seem so far away.
Eh oui. Écrit par Paul McCartney, la chanson Yesterday serait la plus reprise de tous les temps. Pourtant, elle revient de loin, puisque Paul McCartney a rêvé de cette mélodie. Et c'est au réveil de cette belle journée de 1965 qu'il s'est mis au piano pour se rappeler de son rêve. Alors, pour les paroles, à l'origine, il avait écrit « œuf brouillé, oh ma chérie, comme j'aime tes jambes ». Alors, heureusement, quelques mois plus tard, lors d'un séjour au Portugal, il remplace « Scrambled Eggs » par « Yesterday ». Une histoire de séparation.
Puis ça sonne pareil.
Oui, ça sonne pareil, mais enfin c'est quand même plus glamour. Alors cette chanson figure dans l'album Help des Beatles, mais comme il n'y a que Paul McCartney qui la chante, eh bien les autres ils disaient non, on veut pas que tu la sortes en single. Eh bien elle le sortira donc en single qu'en 1976, après la séparation du groupe. Bon alors, combien d'après vous y a-t-il eu de reprises officielles de Yesterday ?
147.
Plus ?
Ah ouais ?
236,3.
Non, plus que 400. On y va. Allez, on monte.
800.
Plus.
1300
plus.
2300.
Ah, pas loin. 2200. Eh ouais, 2200 reprises. Alors, je vais vous proposer quelques petites reprises. Et puis, vous allez essayer de trouver qui chante.
Et puis, la langue.
Alors, c'est en anglais, sauf pour les deux dernières.
Yesterday. All my troubles seem so far away.
Frank Sinatra. Alors,
oui.
Non.
Elvis.
Elvis Presley, oui. Elvis. Bravo. Deuxième. On voit bien. Oui, bien, bravo, Pauline, Ray Charles, bravo.
Celui-là.
Oui, alors c'est
là, ce qu'on vient de dire.
On l'a dit tout à l'heure.
Sinatra.
Oui, celui-ci. Oui. Non. Mais non, c'est un petit peu reggae, c'est.
En
1970, Marvin Gaye. Plus récent.
Yesterday. All my troubles seem so far away.
Non, Maroon 5.
Ah, j'allais dire.
Ah, celui-ci.
Yesterday.
Alors, c'était aux Oscars.
All my troubles seem so.
Billie Eilish, oui, bravo. Alors tout ça c'est en anglais, voici maintenant une version espagnole.
Julio.
Sin la sombra de tu amor.
Tu connais qui en fait?
Oh non, très connu, espagnol.
Non,
plus ancien.
Nicolas.
Nilda Fernandez. Non,
on connaît ça.
Voici un homme. J'ai pas dit que c'était une femme. Et pour terminer, une version traduite en français. Alors vous allez tout de suite reconnaître le chanteur.
Ok, du coup, hier.
Tous mes problèmes semblaient envolés. Maintenant je crois qu'ils sont là pour rester.
C'est qui ?
Non. Je crois en
non, j'ai adoré, je vais être content.
Je suis plus la moitié de l'homme que j'étais.
Oui, Franck Oti, bah oui, notre youtubeur préféré. Bon, allez, comme c'est la pause, on va voir qu'est-ce que vous préférez. Elvis Presley, Ray Charles, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Maroon 5, Billie Eilish, Nilda Fernandez ou Franck Oti, ou l'original, lequel vous voulez?
Elvis, la première.
Ouais. Elvis? Eh ben, c'est parti. Et voici donc Yesterday par Elvis.
Ladies and gentlemen, my version of Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Oh, C'était Yesterday, la version d'Elvis Presley. Allez, en première partie, on a parlé de Pipe, de Masque et de Maï. Vous vous dites, c'est très varié. Eh bien, vous avez raison, mais ça ne va pas s'arranger. Voici le sommaire de la deuxième partie de CMA. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Mais bon, il paraît que c'est utile pour réussir dans sa vie. Encore faut-il réussir sa scolarité. Bonsoir, maîtresse Pauline.
Bonsoir.
On est content de te retrouver dans CMA.
Moi aussi.
De quoi tu nous parles ce soir ?
De l'origine de la réussite à l'école.
Ah bah ça, ça ne nous concerne pas trop autour de la table, mais bon, ok. Le chroniqueur suivant n'a pas du tout travaillé, il est collé ce soir. Il faut dire que sa chronique tient sur un papier carré jaune fluo de 9 cm. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
De quoi nous parles-tu ?
Eh ben je vais vous parler de cette petite feuille de papier avec bande auto-adhésive amovible.
Oh, c'est beau.
Qui est jaune en général. Ouais.
Qui est jaune en général, ouais, d'accord. Elle connaît la couleur également et elle a fait son texte sur Internet en passant par un modem de chez Orange. Mais à force de chiner, elle s'est chopée un Hermès. Bonsoir, oh. Caro.
Comment j'enchaîne après ça ? Oui, c'est super. Alors, ce soir, nous allons découvrir la petite histoire derrière la fameuse couleur orange de Hermès.
Ah, c'est ça. D'accord. On a reçu le droit à un Graal qui répond aux questions des auditeurs. Il est donc temps de commencer. Voici la deuxième partie de CMA. Entre deux tests PCR négatifs, elle a réussi à venir pour nous parler de réussite positive. Voici la chronique de Pauline.
À l'école, colle, colle, colle. Parfois on récolte des heures d'école. On s'en fiche, on vient et on somnole. C'est vraiment génial, cool, super, oui.
Ah, du Dorothée.
Oui.
Ah oui.
Ça rappelle nos jeunes années.
C'est ça, de réussite, donc.
Exactement. Alors, Lawrence Summers, président de l'université d'Harvard, disait « Les femmes percent beaucoup moins dans les carrières scientifiques. C'est normal, elles sont moins bonnes en mathématiques à cause de leur cerveau, c'est génétique. » À votre avis, c'est en quelle année que ce président...
Il n'y a pas si longtemps.
Non, je ne pense pas que ce soit si longtemps. Ouais, ça peut être dans les années 50 ou...
2005.
Oh, la violence. La violence d'entrée de jeu, à mon avis, c'est que c'était récent. Ouais.
Ça montre bien qu'on a beaucoup de boulot en matière de stéréotypes et de préjugés sexistes, effectivement. Vous l'aurez compris, la réussite scolaire de chacun n'est pas due uniquement aux compétences, comme on pourrait s'y attendre, mais bien largement aux stéréotypes que nous subissons quotidiennement durant notre scolarité et qui influencent largement nos professeurs dans leurs évaluations. Et aussi notre état d'esprit quand on passe des évaluations. Depuis combien de temps, à votre avis, justement, il y a eu une différence qui s'est faite au niveau des résultats scolaires des filles et des garçons ?
Bah, du coup, moi, je dis plus rien. Mais depuis le début.
Ouais, voilà. Depuis l'Antiquité, ah, en bah, fait, on s'est dit, bah là, il y a quelque chose. On a. Vas-y. Si
mais,
tu veux.
Non, mais enfin, je trouve qu'à l'école primaire.
Oui.
Enfin, dans ma perception, oui. Je trouve que les filles, en fait, sont plus attentives, sont plus sérieuses que les garçons. Et c'est après que l'écart se crée, peut-être,
c'est
entre
vrai.
Les garçons et les filles, où les garçons, alors, effectivement, sont plus alors, dans des... Dans
pas sur le côté attentif, mais
dans
sur
des filières scientifiques, ouais, et forcément, c'est l'excellence,
oui,
c'est l'élite.
Alors, ça, c'est vrai qu'aux origines, on ne sait pas... je ne pourrais pas en parler totalement ici, mais c'est vrai que ça, c'est aussi en réponse à un stéréotype, finalement, puisque ça s'auto-entretient, en fait. On dit qu'aux filles, pendant toute leur éducation, même depuis le berceau, qu'il faut qu'elles soient... plus sages, alors que les garçons, on peut plus leur dire ben voilà, de montrer aussi leur côté masculin, leur force, leur virilité. Donc c'est vrai que dès le début, en fait, il y a une éducation qui est différente. En tout cas, depuis l'Antiquité, on a cru que déjà, on voyait bien qu'il y avait des caractéristiques physiques visibles différentes entre les hommes et les femmes. Et chez les femmes, elles ont un plus petit cerveau. Bon, ok,
ouais,
ok.
Ouais, bien sûr.
Mais dès le début, depuis l'Antiquité, on pense que c'est un signe d'une plus petite intelligence, voire d'une infériorité intellectuelle. Rajoutez par là-dessus l'idée que les femmes sont plus émotionnelles et donc moins rationnelles. Là, nous obtenons l'un des neuromythes les plus tenaces encore aujourd'hui, à savoir les filles sont... a priori, toujours plus doués pour les disciplines littéraires et sociales, et les garçons sont toujours plus doués pour les disciplines scientifiques. Ces stéréotypes influencent de manière inconsciente, hein, c'est pas volontaire, les résultats scolaires de chacun. Avec l'effet Pygmalion de 1968, on démontrait déjà avec Rosenthal et Jacobson que si le professeur croit moins en nos capacités, il va mettre moins de conditions favorables pour nous faire réussir et pour nous dépasser, en fait, dépasser nos limites. Des contacts peut-être un peu moins chaleureux, un espace de parole un peu moins large, une évaluation qui peut être plus ou moins dure. Donc un exemple concret, on peut poursuivre aussi l'explication par un exemple concret du côté des élèves. Pascal Huguet, directeur de recherche au CNRS, a fait passer ces dernières années un test avec une figure géométrique à mémoriser, tout simplement, et à reproduire. Et si on disait aux filles, par exemple, que c'était un test de géométrie, comprenez donc mathématiques, ah, j'ai peur, j'y arrive pas, tout le monde me dit que j'y arrive pas, de toute façon, donc... les filles se gaufraient royalement. Et si on présentait la même évaluation à un autre groupe de filles, et cette évaluation, on leur présentait comme un exercice de dessin, avec les mêmes, la même consigne, eh bien là, elles surpassaient les résultats des garçons. Donc c'est un truc quand même assez de fou. Dans tout ça, il y a quand même une... On peut garder une vision positive grâce à la neuroscientifique Marie Lacroix, qui nous donne quand même un espoir, c'est bien elle qui nous le donne, en prouvant qu'en moyenne, finalement, le QI des hommes et des femmes est bien similaire. Il n'y a pas, ça veut dire que même les capacités des hommes et des femmes, voilà, sont totalement comparables. Il s'est prouvé en neurosciences maintenant, voilà, c'est dit. Donc ça veut dire que qu'il n'y a pas de femmes multitâches, qu'il n'y a pas d'hommes doués forcément en orientation. Donc tout ça, c'est du fake, du chiquier. Notre cerveau n'a pas de sexe, donc on soit vraiment...
Et elles conduisent aussi bien, alors.
Eh ben oui. D'accord. Et oui, c'est possible. Donc, arrêtons de nous mettre des bâtons dans les roues et de mettre les gens dans des cases.
Voilà. Ok, très bien. Merci, Pauline. Et, elle revient et en plus, elle est dans les temps et tout. Moi, je dis,
c'est nickel. Fais des efforts.
C'est bien. Quel est le point commun entre un frigidaire, un caddie et du sopalin? Eh bien, ce sont des antonomases. Ouf, je vais y arriver. Des marques qui ont un tel succès que leur nom est lexicalisé et qu'il devient commun. Ce soir, il a certains noms communs, mais ces sujets marquent. Voici la chronique de Florian. Et je suis pas fier d'une gueule.
J'irai pas te niquer ta mère, mais j'ai mis sur un post-it. Collé sur le frigo, sur les buffets, dans la cuisine. J'irai pas te niquer ta mère, ainsi que ta cousine.
Voilà, c'est juste parce qu'il y avait le mot post-it. Hein, mais...
Il n'y avait pas d'autre chanson, désolé Florian.
C'est effectivement la façon d'utiliser le post-it.
Quoi. C'est ça.
C'est qu'on peut en mettre partout.
Mais niquer ta mère, non. Hein. Ça ne sert à rien le post-it. Hein.
Tout dépend du message.
C'est ça.
Alors effectivement, je vous parle du post-it ce soir. Bruno, tu l'as rappelé, c'est une marque. Donc je vais utiliser plusieurs fois cette marque-là. Mais comme c'est entré maintenant dans... Enfin, c'est un nom commun.
Bah oui, comme le scotch, comme
ça. Je peux effectivement l'utiliser. Donc, c'est une marque qui est la propriété de la firme américaine 3M. Et encore aujourd'hui, si vous achetez le vrai post-it, vous avez 3M marqué sur l'emballage.
Ok. Ouais. Alors, ça vient d'où tout ça?
Alors, ça vient d'où? Ça vient des États-Unis.
Ok.
Puisqu'il est encore aujourd'hui fabriqué dans le Kentucky. Pour tout le marché américain et également en France, figurez-vous, il y a aussi une usine qui fabrique les post-it en France, hein, à Beauchamp dans le Val d'Oise pour tout le marché européen.
D'accord.
Incroyable.
Non, mais pourquoi pas, c'est bien.
Et donc, je vous le disais, donc ça vient d'Amérique, c'est un chimiste de l'entreprise 3M, Spencer Silver, qui, un jour, par hasard, ouais. Comme le film plastique de la dernière fois, c'était aussi par hasard, et bien là c'est pareil. En 68, il découvre un adhésif poisseux qui ne colle qu'à lui-même. Et quand il le colle sur autre chose, en fait, ça colle, mais il peut le décoller. En fait, voilà. Et donc il se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais essayer d'en faire quelque chose, surtout essayer de le commercialiser, tant qu'à faire, autant récupérer des sous. Il se dit qu'il allait le commercialiser comme vaporisateur. Vous savez, les bombes aujourd'hui... en art plastique, beaucoup pour coller des choses ou les décoller.
D'accord.
C'est des bombes, enfin c'est des sprays de colle comme ça. D'ailleurs, c'est 3M qui les fait aussi. Voilà, donc soit en vaporisateur, soit en tableau autocollant, en fait, pour directement coller les choses dessus, comme si c'était aimanté. Bon, c'est un gros flop. Forcément, ça vient de sortir. C'est pas... les gens n'étaient pas encore, à mon avis, très...
Donc en fait, ça se collait, mais ça se décollait.
Bah, ça se collait, ça se décollait. Oui, bah, c'est toujours le principe du possible. Ouais, hein. Ouais, ouais. Ça se colle et ça se décolle. Bon, donc ça, il arrête. C'est son collègue, ensuite, Arthur Fry, qui chante. Il est chef de chœur dans une église.
D'accord.
Petite anecdote. Il est chef de chœur dans une église presbytérienne. Et pour chanter, il a besoin de ses paroles, en fait, de ses feuilles de chant. Et ouais. Il utilise cette colle-là, donc de son collègue. Super, il pique l'idée à l'autre, mais bon. Il utilise ça. Et bon, ça fonctionne moyennement. Des fois, ouais. Ça tombe, mais bon, il fait ce qu'il peut. L'idée fait son chemin, quand même, et donc la marque 3M lance en 77 un premier test de commercialisation un peu plus à grande échelle, mm-hmm. Et c'est également un incroyable échec aussi. Ça ne marche pas du tout. Bon, ouais. Finalement, il change de directeur, et en 78, ce nouveau directeur a l'idée de... il distribue en fait gratuitement les premiers post-it dans une ville d'Amérique. Et là, c'est plutôt pas mal, parce que les gens, 90% des personnes se disent prêts à acheter le produit.
C'est pratique, quoi. Ils le testent et c'est pratique.
Et c'est pratique, et effectivement, quand même. Enfin, je pense qu'on est plusieurs ici, voire tout le monde utilisé.
Converti
au post-it. Bon, et puis là, depuis 78 et 79, c'est le début de l'expansion du post-it. Alors, ça s'appelle officiellement le post-it note, ou notes. Donc, ça part sur 11 États américains au départ. Puis... tous les USA en 80, et en 81, ça arrive en Europe. Mm-hmm. C'est pas si vieux que ça, quand même.
Non, c'est vrai. Enfin,
81. Mm. Voilà. Aujourd'hui, comment on utilise le post-it? Bon, effectivement, j'ai dit, on en colle un peu partout avec des notes dessus, pour se rappeler de choses, ou pour mettre des petites annotations dans ce qu'on veut, d'ailleurs. Mm-hmm. On l'utilise aussi sur des brainstorming, beaucoup. On prend des post-it, on écrit des choses pour partager des informations, pour faire des petites séances de... je sais pas comment dire ça, de motivation.
C'est surtout pour pas oublier des choses, en fait. C'est
et puis
un mémoire.
De travail collectif aussi. Aussi.
Ouais,
ouais. Oui, c'est un aide-mémoire aussi.
C'est un aide-mémoire,
oui. D'ailleurs, l'arrivée de l'informatique a repris ce terme-là de post-it. On a les post-it électroniques, aujourd'hui.
Sur l'écran, oui.
Sur les notes, sur l'écran, on peut poser des notes. Donc c'est pareil, c'est le même principe.
Oui, parce que si tu codes les post-it sur ton écran, à un moment donné, tu vois plus rien. Hein. Ça, je confirme.
Bah, tu peux, au boulot, je fais ça, je colle les post-it sur l'écran. Mais bon.
Et tu vois plus, d'accord. Bah, non, et tu mets du blanco aussi pour corriger tes fautes
sur les côtés de l'écran. Sympa, sur les côtés de l'écran.
Ah, d'accord, ok.
Bah oui. Et puis, il y a eu aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2011, un détournement un petit peu artistique du post-it. Ça a beaucoup fait parler en...
Oui,
en
la pixel art.
Effectivement, on faisait des figures. Alors, c'était les employés d'Ubisoft et de BNP Paribas, ouais. À Montreuil, qui se faisaient des battles comme ça de post-it. Et en fait, ils faisaient des figures de personnages de jeux vidéo.
Ouais, ouais.
Beaucoup, ou de dessins animés. Et ils appelaient ça la post-it war. Ou la guerre des post-it.
De fenêtre à fenêtre. Ouais, c'est voilà. Sympa. Ouais.
Toujours sur le côté artistique, il y a le premier qui a utilisé les post-it un peu pour l'art, c'est un Canadien, Imoni Men, qui réalise une fresque murale avec 10 000 post-it.
Oh,
et
vache.
C'était aussi en 2011. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez, c'est quoi le record de post-it utilisé pour faire une fresque donc une fresque de ces
petits papiers protocoles. Plus de 10 000 alors.
Alors hein. Plus que 10 000, effectivement.
5 000
C'était en 2012, hein, donc c'était pas longtemps après.
Alors 5 000, 5 000.
Non, plus que 10 000.
Ah, plus que 10 000.
Ça peut être 5 000,
oui. 10 000, 20 000.
Beaucoup plus que ça.
Bon, alors,
30 000.
Non.
100 000.
Non, plus que 100 000 aussi.
Ah oui, ah bah,
200
d'accord.
200
000. Presque.
250 000.
190 000 post-it.
Oh la vache.
Qui ont été utilisés pour faire une grande fresque à l'occasion du Tour de France, donc qui passait à Liège. Et donc, voilà, ils ont utilisé des post-it donc de toutes les couleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, il est plus jaune, le truc. Mm-hmm. Hein, il est...
Oui, pourquoi c'est plutôt oui. Jaune en
fait. Eh ben, c'est une très bonne question. Ouais. Ça sera pour une prochaine chronique.
Bien joué.
Très bien.
La couleur est... Voilà. Et alors, aujourd'hui, donc, le brevet est tombé dans le domaine public, aussi depuis l'an 2000. Et aujourd'hui, tout le monde peut faire des post-it. Et il y a une usine vendéenne. Une imprimerie vendéenne qui aujourd'hui
propose des post-it
propose
aussi.
Alors plutôt aux entreprises propose le Memorit
donc Memorit
parce que post-it bon. Mais le Memorit et c'est le même principe que le post-it effectivement
un peu loin c'est à dire quand même
la petite, Memorit, feuille,
ouais.
La petite bande adhésive
un petit Memorit à me passer tout simple
bah, ouais.
C'est clair voilà. Très bien merci Florian
ho sognato di volare con te sono bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Non tocco i brividi, a volte non si esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via. Accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi. Il mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera, e tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui, mi lasci così. Lo tocco nei brividi,
écoutez CMA sur Radio G, radio-g.fr ou les 101.5 FM en Maine-et-Loire, et on va maintenant faire une course en sac, mais attention, on passe à l'orange. Voici la chronique de Caroline.
Tu veux être fou, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange, je crois pas, des valeurs, j'ai pas l'orange, tu m'as chante.
Version Starac en plus.
Ah vite ça, Michel.
Ouais, c'est ça. Ah oui, bien.
Il faut aller le trouver celui-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il est devenu, les morts?
Non, oh non, 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 il continue, oh. Il continue de tourner, il chante, oui.
Ah bien, c'est bien, on le salue. Alors, bonsoir à tous, et oui, ce soir, nous allons découvrir l'histoire qui se cache derrière la fameuse couleur orange d'Hermès. Alors, en quelques points, Hermès, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un savoir-faire artisanal depuis 1837, donc c'est l'une des plus vieilles maisons françaises, dans la maroquinerie, l'horlogerie, les parfums et la soie. Donc c'est avant tout des pièces cultes, je pense qu'on connaît tous à peu près ce que fait Hermès, le carré exactement, pour le foulard.
Moi, je voyais pas ça orange, moi, le Hermès, je voyais toujours ça un peu marron, un peu doré, mais jamais orange.
Oui, oui, il y a du marron aussi, mais tu vas voir pourquoi.
D'accord.
Et c'est aussi bien sûr les sacs, le fameux Birkin, le Kelly, donc des sacs créés par et pour des icônes et qui ont marqué un peu le temps. Alors, son point fort à Hermès, c'est un ADN solide qui a su s'adapter à presque 191 années qui ont fait son histoire. Et quand on pense Hermès, on voit tout de suite les jolies petites boîtes orange. Alors du coup, toi, tu les vois marron, mais elles sont orange, nouées avec un ruban brun et ce fameux logo d'une calèche duc à cheval qui représente les origines de la maison.
C'est bizarre parce que l'orange, maintenant, c'est du low cost. Enfin, c'est une couleur qui est liée au low cost.
Eh bien, c'est exactement ça. Donc, Hermès,
c'est pas du low cost.
Mais oui, mais justement, en fait, c'est le fruit d'un hasard et tu vas découvrir que c'est ça le point fort d'Hermès, c'est qu'ils ont réussi à faire d'une couleur qui était un peu cheap et passée de mode selon les années, un truc super chic et un raz-de-marée, quoi.
D'accord.
Donc voilà, donc les origines de la maison, puisqu'à la base, c'est Thierry Hermès qui était harnacheur sellier et qui s'est retrouvé avoir une petite boutique rue Faubourg-Saint-Honoré. Et l'un de ses clients s'est trouvé être le tsar Nicolas II. Donc effectivement, de là, il a eu une clientèle richissime de tous les présidents et de tous les rois du monde. Ce qui a fait que Hermès, en fait, a pris une valeur énorme. Et si ça a perduré, c'est grâce aux successeurs, en fait, puisque c'est une des rares maisons à avoir toujours les successeurs qui tiennent le pouvoir sans être achetés par un groupe, LVMH ou autre. Ils tiennent encore la main. Et ils ont décidé de tous se renouveler. Donc l'un des enfants voulait faire de la maroquinerie et ils ont eu un succès énorme dans les sacs. Un autre enfant avait une petite passion pour la soie. Ils ont fait les Twilly, le carré Hermès. Et à chaque fois, c'est un gros succès. Bref, si cette couleur est désormais mythique, elle est à la base le fruit du hasard et surtout des aléas de l'histoire. En effet, à l'origine, les emballages étaient en simili-cuir beige fermé par un bolduc marron ou simili-cuir crème avec un joli bord doré. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Paris est occupé par les nazis, le rationnement est mis en place. La boutique rue du Faubourg Saint-Honoré peinait à produire et c'était encore pire pour trouver des emballages de qualité qui fassent un petit peu haut de gamme. Donc, puisqu'il était impossible de trouver du simili-cuir, Hermès se tourne par dépit vers le carton. Problème, il y a aussi de grosses restrictions chez les fournisseurs qui ne proposent que des cartons orange, car c'était la couleur la moins voulue par les fabricants avant la guerre, et donc la seule restante dans les stocks au final.
D'accord.
Une fois la guerre finie, Hermès décide de garder la couleur sur un coup de poker. Dans les années 60, elle devient la couleur officielle et elle est même désormais déposée comme le orange Hermès.
Ah, carrément.
Alors, pas reconnue par Pantone, mais déposée. Et Hermès la qualifie de chaleureuse, dynamisante, liée aux agrumes. Petite passion.
Oui, forcément,
voilà.
L'orange, oui.
Et grâce à Hermès, c'est une couleur qui est devenue presque chic. Elle a connu un gros flop dans les années 90, voilà, après la vague 70 hippie où on a vu beaucoup d'oranges jaunes. Dans les années 90, le orange s'est un peu essoufflé et malgré ça, Hermès a réussi à garder et à faire une plus-value sur cette couleur. Donc c'était vraiment un gros coup de poker et un gros coup de génie du coup.
Oui, oui.
Au final, par le hasard et l'histoire, Hermès a créé une véritable stratégie liée au fait qu'on ajoute à la marque juste une couleur et plus un logo ni un slogan en fait.
On reconnaissait le orange Hermès.
Le orange Hermès, voilà. Donc du coup, beaucoup d'autres marques ont suivi un petit peu le coche, quoi. C'était vraiment des précurseurs, voilà. Donc désormais, on trouve le rouge Valentino, le bleu Tiffany, pour rester dans la mode. Il y a le gris Dior, qui sont toutes des marques déposées quasi maintenant. Et vous en connaissez certainement d'autres, puisque en fait, il n'y a pas que dans la mode que maintenant une marque est associée à une couleur. En fait, on peut dire rouge Coca-Cola
Oui, forcément, ils ont tous.
Je sais pas, voilà, ouais. Vous en avez certainement d'autres.
Ou frites McDonald's.
Les frites jaunes McDonald's, ouais.
C'est ça,
voilà, et il faut savoir que les boîtes. Pardon.
La couleur orange, là, d'Hermès, ça ressemble beaucoup à la boîte des Caramandes.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
La même couleur.
Ça fait boîte chocolat. Oui, avec du marron aussi.
Un peu orange foncé, oui.
Oui, parce que c'est des couleurs qui sont devenues chic et un peu chaleureuses et donc qui s'adaptent très bien. Et du coup, pour en justement parler des boîtes, on trouve des boîtes Hermès sur eBay, juste la boîte, sans contenu, qui explosent et qui sont vendues à l'international à des sommes folles.
D'accord.
Juste la boîte, parce que
c'est
joli.
Parce que c'est orange, d'accord.
Voilà, et qu'on peut la poser, que c'est une petite... Voilà. Donc c'est vraiment un coup de maître, quoi.
Bah, je vois ça, oui, effectivement. Merci,
voilà.
Caro.
Magique.
Très bien. tiens, c'est maintenant l'heure du Graal, la minute qui répond à vos interrogations. Et donc maintenant, c'est une autre question à laquelle nous répondons.
Question de Charles de Condé, pourquoi y a-t-il 52 cartes dans un jeu ?
Il existe plein de jeux différents, mais en effet, un jeu de 52 cartes a 52 cartes. Et ce n'est pas un hasard. Bon Charles, accroche-toi. 52, c'est le nombre de semaines dans l'année. Les 4 couleurs représentent les 4 saisons. Si on compte le nombre de figures du jeu, on obtient le chiffre 12. 12 pour les 12 mois de l'année. Si on ajoute le nombre de points des cartes, l'As valant 1 et le Roi 13, et ce pour les 4 couleurs, on obtient 364, le nombre de jours dans l'année. Mais je vous entends d'ici, l'année a 365 jours. Mais le jeu a 2 jokers, donc on arrive à 365, voire 366 pour les années bisextiles. Donc voilà Charles, ce n'est pas un hasard si le jeu de 52 cartes a 52 cartes. Bon après, j'avoue qu'on fait dire aux chiffres ce qu'on veut, mais gardons la magie des cartes en disant que tout ceci est réfléchi.
Vous saviez pas ça ? Allez, eh bien...
C'est qui le gagnant ?
Ah, voilà, c'est ça, parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Là,
oui, tout de suite. Voilà. Donc, effectivement, il est l'heure de découvrir le gagnant du CMA+. À chaque émission, des auditeurs votent pour les sujets qui les ont le plus intéressés dans CMA, histoire de bien mettre la pression sur les chroniqueurs. On délivre donc à chaque fin d'émission le CMA+ de l'émission précédente. À la dernière émission, on a parlé des plus belles déclarations d'amour au cinéma, de lingerie, de l'aphrodisiaque, des aphrodisiaques, des chansons d'amour, des annonces de rencontres et même des fleurs. Eh bien, roulement de tambour, drrrrumps, le gagnant de cette semaine est... Eh bien, c'est Mathias qui remporte le CMA+, avec sa chronique sur l'histoire des sites de rencontres. Bravo. Donc, Mathias, tu retrouveras donc, ta chronique directement sur, sur Internet, sur le site radio-g.fr, sur les podcasts plus. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci à nos chroniqueurs et queuses du soir. Merci Pauline. Merci Olivier, merci Sandra, merci Mathias, merci Florian et merci Caroline. Merci. On embrasse très fort le reste de l'équipe que vous retrouverez dans les prochaines émissions. Et puis on se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.